CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Allez, on poursuit cette édition du magazine d'actualité avec en studio Bernard Lauriac. Bonjour Bernard.
Bonjour David.
Et Raymond Laurière. Bonjour Raymond Laurière.
Bonjour.
Raymond Laurière que l'on retrouvera au cinéma Le Vox mardi prochain pour co-animer cette prochaine conférence inscrite au programme de l'Université des Savoirs Partagés. Une conférence qui a pour thème Luther et Calvin aux sources de la réforme. Juste un intitulé qui pose beaucoup de questions. Moi, je sais pas où on met les pieds du tout. Mais heureusement, on vous est en studio peut-être pour nous éclairer, nous aiguiller sur cette conférence. Raymond Laurière, on vous retrouvera un petit peu plus tard, inscrit au programme de l'Université des Savoirs Partagés, dans un tout autre domaine à ce que j'ai cru comprendre. C'est le 5 mai précisément, on aura l'occasion d'en reparler, de vous recroiser très certainement dans ces studios. Bernard, peut-être un petit mot d'introduction sur cette conférence de mardi prochain.
Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que cette conférence, elle tombe finalement assez bien par rapport à l'actualité. Je m'explique. On a, au Moyen-Orient, une guerre de religion entre chiites et sunnites, entre, évidemment, instrumentalisés sur des enjeux politiques. Mais l'Europe a connu au XVIe siècle un séisme comparable à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Et donc, c'est intéressant, je crois, de comprendre un petit peu pourquoi ces questions religieuses peuvent enflammer toute une région, tout un continent. Alors, bien entendu, aujourd'hui, entre catholiques et protestants, c'est l'écuménisme, hein, on est à une période de tolérance en Europe, et donc on se retrouve entre catholiques et protestants à Villefranche sans aucun problème. Donc on n'en est plus à se traiter d'hérétique et à la violence. Mmh. Mais ailleurs, effectivement, cette violence est bien là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, donc, chez près de moi, le docteur Laurière, c'est intéressant d'avoir un conférencier à côté, parce que pour les autres conférences, ils arrivent au dernier moment et on peut pas les faire passer à la radio. Mmh. Donc, il va nous dire un petit peu comment il conçoit l'émission. Mais, je trouve que Luther d'après Lucien Febvre, je le cite, l'accoucheur héroïque et génial de notre monde moderne s'appelait-il Luther, hein? Donc, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important. Et Calvin, pour l'organisation de l'Église réformée en France, est le personnage aussi très important. Alors, je m'adresse au docteur Raymond Laurière. Comment vous avez conçu un petit peu cette conférence avec Luc Serrano, qui est, je le rappelle, est pasteur à Rodez de l'Église réformée du Rouergue.
D'abord, je voudrais remercier l'ESP, évidemment, d'avoir nous permettre d'aborder ce sujet qui est, comme tu le disais, d'actualité, qui est passionnant. Et tout d'abord, c'est un anniversaire. Tout le monde connaît les 95 thèses de Luther en 1517. Mais peut-être que la genèse de ces 95 thèses a démarré en 1515. Donc, c'est exactement l'anniversaire lorsque le pape, une fois de plus, mais sans doute une fois de trop, promulgue des indulgences pour le financement de la basilique Saint-Pierre à Rome. Voilà, donc ça a peut-être été la goutte d'eau qui a précipité Luther dans sa démarche. Voilà, ce qui est intéressant, je crois...
Il faudrait que tu expliques les indulgences en liaison avec
Saint-Pierre. Les indulgences, c'est payer son salut, acheter son salut, pardonner ses péchés moyennant finance. Voilà, donc Luther, qui était un catholique vrai, et c'était un moine, il était même moine, c'était se rebelle un petit peu comme ça. Mais en fait, c'est pas une rébellion, c'est plutôt, il a le courage de le dire et de l'afficher devant tout le monde. Il est certain que ses opinions, ces idées qu'il avait là, il n'est pas le premier à les avoir. Hein. Il y a d'autres, il y a trois noms qui seront cités et qui entrent déjà dans un courant, je veux pas dire libéral, mais enfin, un petit peu de remettre un peu en question les fondements de l'Église catholique et surtout mettre un peu en question tout ce qui se passe à Rome. Hein, voilà. Donc, il y a quand même trois noms qui vont être cités. C'est l'anglais Wycliffe, c'est le tchèque Jean Hus, qui a été brûlé pour ses opinions, et c'est Erasme, le grand Erasme, mais qui a eu, je dis pas l'intelligence, l'opportunité de un petit peu revenir en arrière sur ses idées au bon moment. Donc, il n'a pas été brûlé. Voilà, donc Luther lui est arrivé, il a eu le courage d'écrire ses thèses, c'est-à-dire des propositions qu'il faisait, non pas pour détruire l'Église catholique, mais pour améliorer un peu son fonctionnement. Voilà, et comme demandait Bernard, pourquoi a-t-il réussi? Étant donné qu'il y en a d'autres avant, comme j'ai cité, qui ont payé de leur vie. Alors, je crois que là, il faut se mettre dans un plan sociologique, socio-économique, et dans les progrès du siècle. C'est en particulier l'imprimerie. Hein, l'imprimerie d'années avant, qui va permettre l'impression de ces thèses qui seront imprimées 8 fois en 2 ans. Voilà, et qui seront traduites dans une multitude de langues. Donc ça, c'est grâce à l'imprimerie. La deuxième chose, c'est probablement l'attitude des princes, puisque Luther était dans un land allemand, et où il a eu la protection du duc, de Frédéric le Sage, voilà, qui l'a protégé, hébergé, voilà, et qui l'a également protégé un petit peu du principal ennemi de l'époque, c'est-à-dire Charles Quint. Okay. Voilà, si bien que Charles Quint a prononcé envers Luther des condamnations, excommunications, le pape a envoyé des bulles, etc. Et Luther a toujours refusé, il se sentait soutenu par le prince électeur, et Charles Quint n'est jamais allé trop loin, d'autant que semble-t-il qu'il y aurait eu un petit peu des concertations entre eux, et que si Charles Quint est devenu empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est parce que le prince électeur, qui visait aussi ce poste, si on peut dire, cette fonction, aurait peut-être fait un marché avec Charles Quint en disant « Bon, maintenant, tu deviens empereur, mais dans mon coin, dans mon côté, on reste tranquille. » Si bien que Luther a toujours été menacé, il a résisté, mais c'est jamais allé jusqu'au bout. Donc, il a pu répandre ses idées. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces idées se sont répandues en France, et même en France, il y avait le célèbre cénacle de Meaux, avec le Lefèvre d'Étaples et l'évêque Brissonnet, et qui se sont rétractés juste à temps, avant le bûcher. Voilà. Et d'autres, même sous le règne de François Ier, en France même, sont passés au bûcher, parce que François Ier ne pouvait pas tolérer dans son pays qu'il y ait plusieurs religions, donc c'était un problème d'unité nationale.
Vous venez de nous rejoindre, vous écoutez, c'est FM, hein, qu'on se méprenne pas, et Raymond Laurière est en train de nous proposer une avant-conférence, merci hein, Raymond Laurière, avant mardi, accompagné de Bernard Lauriac de l'Université Populaire des Savoirs Partagés, Luther et Calvin aux sources de la réforme, c'est l'intitulé de la conférence qui aura lieu mardi prochain au cinéma Le Vox. Comment vous avez choisi d'aménager et d'animer cette conférence avec Luc Serrano? J'imagine que vous êtes distribué un peu les rôles.
Voilà, on s'est distribué les rôles. Alors, si vous voulez, comme Luc Serrano est quand même le théologien, est plus théologien que moi, c'est lui qui tirera les conclusions de toute cette question. Donc moi, on va alterner. Moi, je vais faire une présentation illustrée avec projection d'images de ces deux grands personnages. Voilà, que je vais commenter brièvement, ne serait-ce que pour en retracer la biographie. Et Luc Serrano va tirer les conclusions de l'action de ces deux personnages, qui ne se sont d'ailleurs même pas connus, puisque Calvin a échappé lui aussi de justesse quand il était parisien à...
Il s'est réfugié à Strasbourg.
À la prison, il s'est réfugié à Bâle, puis finalement après à Genève, et donc il a tout fait à toute sa théorie a été à Genève, voilà. Et c'est deux personnes qui ne sont pas connues, mais qui restent extrêmement complémentaires, voilà, au moment où donc le conflit va dégénérer. Et je crois que la conclusion se fera sur une des phrases d'un certain Sébastien Castellon, qui était un évêque de, qui était un, pas un évêque, un élève de Calvin, et qui a dit « Tuer un homme, même au nom d'une doctrine, c'est quand même tuer un homme ». Voilà, donc je crois qu'il va se dégager de cette conférence un esprit de tolérance et des démarches de tolérance qui me paraissent nécessaires dans le monde actuel.
Oui, alors moi je voudrais revenir sur deux points. Effectivement, l'imprimerie a joué un rôle fondamental dans la diffusion des idées de Luther et de Calvin. Il faut dire que ils ont traduit le Nouveau et l'Ancien Testament en langue vulgaire. Jusque-là, c'était réservé aux clercs, aux ecclésiastiques, et donc le peuple n'avait pas droit à la lecture directe de l'Écriture. Ça, c'est fondamental. On a voulu revenir à la pureté de l'Écriture, de l'Église primitive. C'est ça qui est fondamental dans le protestantisme. Malheureusement, il faut bien le dire, au XVIe siècle, la notion de tolérance a été complètement inconnue, aussi bien des protestants que des catholiques, puisque cette religion de l'amour a abouti à des bûchers, à une répression, à quelque chose de terrible, y compris à Grave, à Villefranche de Rouergue, hein, où les protestants ont été, malgré le serment, le fameux serment.
Mais à Grave, déjà, le conflit est enchaîné, hein. Mais avant Grave, donc avant 1561, il y a quand même eu pas mal de démarches qui se sont faites avec la conférence d'Augsbourg, et même de la part de Catherine de Médicis, qui le fameux colloque de Poissy, donc était quand même une tentative de réunir et de mettre à la même table
les théologiens,
les deux parties pour essayer de trouver un terrain d'entente. Ça n'a pas marché. Alors ça avait commencé avec les placards, et puis après il y a eu la conjuration d'Amboise, puis après le massacre de Vassy.
Écouter là, Raymond et Bernard, je me pose juste une question. Est-ce qu'il y a une nécessité de se documenter pour tout bien comprendre et apprécier la conférence de mardi prochain?
Oui, non, pas du tout. Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout.
Vous expliquerez tout, hein.
Moi, je l'expliquerai sur un plan illustré, parce qu'il faut quand même montrer des images. Voilà, peut-être qu'on abordera le thème de l'image aussi, qui est un thème qui est d'actualité. Mais Luc Serrano, lui justement, sait très bien déduire les problèmes essentiels et les conclusions de la vie de ces deux hommes, de l'action de ces deux hommes.
Et moi, je voudrais dire, puisque le temps passe, que aujourd'hui, entre chrétiens, catholiques et protestants, on se rencontre à peu près tous les deux mois pour discuter d'un thème. On va au culte de l'un et de l'autre. Donc là, il n'y a pas de problème. Et même ce qui nous tenterait le plus, c'est avec les musulmans de se rencontrer aussi, et même jusqu'à aller prier ensemble à la mosquée ou venir à la collégiale. J'espère qu'un jour on y arrivera. On n'y est pas encore arrivé. C'est difficile. Voilà. Donc oui, l'université populaire, la consigne qu'on donne aux conférenciers, c'est d'être simple, de pas utiliser des mots que des gens ne pourraient pas comprendre. Donc tout le monde va être à l'aise pour comprendre ce qui s'est passé au XVIe siècle.
Luther et Calvin, aux sources de la réforme, une conférence animée, co-animée par Luc Serrano et Raymond Laurière. Raymond Laurière qui était avec nous en studio, accompagné de Bernard Lauriac de l'USP. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions, nous avoir servi un début de conférence. Hein, Raymond Laurière, on vous retrouvera dans nos studios au mois de mai pour l'abstraction lyrique. Hein. Le rendez-vous est pris, 18h30 au cinéma Le Vox pour le prochain rendez-vous de l'USP. Messieurs, merci, belle journée.
Merci.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.